Alors, depuis ce matin, depuis le début du culte, au travers de ce que Jean-Bernard nous a partagé, au travers de ce que l'on a pu entendre, au travers des prières, au travers des chants, on dirait que le ton est donné de la part du Seigneur sur la fidélité, hein, que Dieu est fidèle au travers de ce que Jean-Bernard nous a partagé tout à l'heure. Cette fidélité de Dieu, même dans les petites choses. Et je crois qu'effectivement, elle est importante parce qu'elle est la réalité de notre quotidien. Je me souviens de la dernière fois que nous étions venus, je vous avais prêché un message sur les héros de la foi, hein, mais pas ceux qui avaient accompli des exploits, ceux qui, au contraire, avaient vécu des choses que l'on qualifierait plutôt de choses négatives, mais que Dieu voyait en ces gens des véritables héros, peut-être plus grands que ceux qui avaient accompli des exploits. Effectivement, lorsqu'on vit et qu'on accomplit des grandes choses d'une façon quotidienne, on se dit waouh, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, c'est génial de vivre ces choses-là. Mais je crois que la réalité du quotidien que l'on vit, pour ma part, je crois qu'il est plus intéressant de voir Dieu dans la fidélité du quotidien que des exploits et des choses extraordinaires que l'on peut vivre. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des choses extraordinaires, je le souhaite en tout cas, et j'en doute pas, mais on doit réaliser et reconnaître que notre vie est plutôt faite de quotidiens, de petits quotidiens. Et moi, j'aime bien prêcher sur les choses du quotidien, parce que ça reflète plus ce que je vis avec Dieu. Il y en a d'autres qui sont privilégiés en vivant des choses extraordinaires. Il y a des campagnes d'évangélisation, où il y a des miracles extraordinaires qui se font, hein, quand on prêche l'évangile devant des milliers en Afrique, ou des choses comme ça, où il y a des résurrections. Dimanche dernier, on avait un prophète à l'église de Douai qui nous racontait des choses extraordinaires qu'il avait vécues pendant une campagne d'évangélisation avec Reinhard Bonnke. Il avait vécu vraiment des choses extraordinaires. Et je me dis, mais si des gens arrivent à vivre cela, bah, tant mieux pour eux. Moi, mon quotidien, moi, il est plus de voir et de me satisfaire de voir et de comprendre Dieu dans la fidélité de ce quotidien qui est souvent banal par rapport aux exploits que certains peuvent vivre. Et c'est pour ça que le sujet de mon message ce matin, c'est tout simplement « Je suis fort grâce à ma faiblesse ». Est-ce que vous avez des faiblesses ? Hein ? Moi, mon quotidien, justement, hein, c'est bien de me rendre compte de faiblesses plutôt que de grandes qualités que Dieu veut bénir. Hein. Alors, je vous invite à lire deux passages. Le premier dans 1 Corinthiens 1, 26. Ce passage de Paul qui nous rappelle cette grande vérité de la part du Seigneur, 1 Corinthiens 1, 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Deuxième texte de 2 Corinthiens 12, verset 9. 2 Corinthiens 12, verset 9 et 10, qui nous dit ceci à son tour. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ce que Paul a vécu, hein, au travers des révélations qu'il a reçues, au travers des choses qu'il a pu vivre en proclamant la foi et en annonçant, comme il le dira lui-même, l'évangile, non pas avec des paroles sages, mais une démonstration de l'esprit. Et au milieu de tout cela, il devait bien se rendre compte que son quotidien, c'était la faiblesse. Et il est arrivé à un certain point de se dire, eh bien, je me rends grâce que cette faiblesse, au final, eh bien, elle est plus un moyen que le Seigneur va utiliser pour se glorifier, que plutôt que les exploits que j'ai été capable de vivre avec lui. Tous ici, on a des faiblesses, n'est-ce pas ? Ne me dites pas que je suis le seul. Et même si je vous disais que j'en avais pas, ma femme serait la première à se lever. Beaucoup, hein, beaucoup, nous avons tous des faiblesses. D'ailleurs, à la création, est-ce que Adam était parfait. Oui, je le crois, la création était parfaite. Est-ce qu'il avait des faiblesses, selon vous? Est-ce qu'il avait des faiblesses, Adam? Pour moi, il en avait au moins une, celui d'écouter sa femme quand elle disait des bêtises. Hein, viens manger le fruit, tais-toi donc, toi, moi c'est niette. Hein. Il a dit, ok, j'y vais, on mange. Il avait au moins cette faiblesse-là. Nous avons tous des faiblesses, et dans l'Église, nous pouvons reconnaître aussi que nous avons tous des faiblesses, et ces faiblesses, eh bien, nous allons les cacher ou les amoindrir, comme si Dieu lui-même en avait honte, comme si on avait mis un masque religieux sur ce que nous sommes en réalité, pour que les autres pensent que nous sommes autre chose, et certainement plus fort que ce que reflète la réalité. Mais nous faisons cela pour masquer souvent nos insuffisances et nous rendre peut-être plus spirituels que l'on est. Mais le fait est que nous avons tous des faiblesses dans différents domaines, dans le domaine physique, dans le domaine émotionnel, domaine relationnel, intellectuel, etc., et même souvent des faiblesses spirituelles. La question n'est pas de savoir si nous avons des faiblesses, la question est de savoir qu'est-ce que nous allons faire avec ces faiblesses. Comment allons-nous gérer ces faiblesses? Et c'est important parce que, hein, comme je vous disais tout à l'heure, ça fait partie de notre quotidien. Et voir et savoir et se rendre compte que Dieu ne va pas nous juger ou nous condamner parce que nous avons des faiblesses, mais au contraire, Dieu se glorifier et puis se démontrer aux autres au travers de nos faiblesses, on se dit, tiens, ça me donne une occasion de regarder les choses différemment. Si le diable, lui, sait très bien ce qu'il va faire avec mes faiblesses, hein, se servir de mes faiblesses pour m'attirer de plus en plus du mauvais côté et dans la chute, le Seigneur dit, tiens, avec ces faiblesses, moi, je vais faire autre chose. Une chose est sûre, c'est que Dieu ne nous a pas choisis à cause de notre force, de notre puissance, de nos dons, de nos capacités. Nous avons lu le passage, et là, on se dit, ouais, chouette. Alors, à ce moment-là, si je n'ai pas été choisi sur ces critères-là, j'ai des chances. Hein, j'ai des chances de faire quelque chose avec le Seigneur. On se débat avec nos faiblesses. Enfin, pour moi, je sais que je me débat avec ces faiblesses, essayant de les corriger, de les éradiquer de nos vies, de se changer. On peut les nier, on peut les défendre. Aussi, on peut les excuser, on peut surtout les cacher afin que les autres ne les voient pas. Nous essayons de faire semblant qu'elles n'existent pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans notre quotidien, Dieu dit, eh bien, moi, je vais me servir de tes faiblesses pour me glorifier. En tout cas, Dieu nous dit, moi, je veux utiliser ces faiblesses. Moi, je veux prendre ce qui est le plus faible chez toi et l'utiliser comme vitrine de ma puissance. Voilà où ça devient intéressant de notre quotidien avec le Seigneur. Je veux montrer ma force dans ton insuffisance, justement. Parce que je veux confondre les choses fortes du monde, non pas avec des choses fortes, mais avec des choses faibles. En tout cas, voilà la pensée du Seigneur. Et on se dit, là, ben, nous avons tous nos chances. Paul dit, il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses faibles. Dieu a choisi les choses faibles. Dieu prend plaisir dans l'utilisation des choses et des personnes faibles. Pourquoi ? Bien parce qu'elles mettent en valeur sa puissance et sa gloire. Et Dieu va se servir de cela. Alors, bien sûr, quand je parle de faiblesse, je ne parle pas de péché que l'on cache et qu'on ne veut pas régler. Ce n'est pas du tout la même chose. Ne confondons pas faiblesse, c'est-à-dire les choses dans lesquelles je suis limité, que je n'arrive pas à faire, et ne confondez pas non plus avec le péché, les choses que l'on ne veut pas régler de nos vies. Je ne parle pas non plus de ces défauts de caractère, de que ce soit de paresse, de négligence, de mauvaises paroles, de colère, toutes ces choses qui en nous et que l'Esprit de Dieu aurait bien aimé changer et transformer cela en des véritables fruits de l'Esprit. Non, les faiblesses dont on veut parler et que Dieu veut se servir, ce n'est pas ces choses-là. La faiblesse dont Dieu nous parle, c'est celle qui commence, c'est celle qui se présente là où moi je suis limité, là où je ne sais pas et où je ne peux pas, parce que j'ai mes limites, quels que soient dans les domaines dans lesquels je suis en train de faire des choses. Et nous sommes limités dans bien des domaines, dans le domaine physique. Nous ne sommes pas tous égaux, il y a bien des gens qui ont des capacités physiques, des fois remarquables. Il y a des fois des sportifs, on se dit, mais quelles capacités ils ont. Ils accomplissent des choses. Thierry, par exemple, qui aime beaucoup escalader, Moi, au contraire, j'ai des faiblesses dans ce domaine. Moi, c'est l'attraction terrestre qui me retient en bas. Je reste en bas. Hein. Je serais incapable de grimper, je serais incapable de monter. On a des faiblesses dans les domaines émotionnels aussi, dans le domaine relationnel. Enfin bref, on se connaît bien et on sait où sont nos faiblesses. Mais le désir de Dieu, c'est de nous amener là, au-delà de nos propres limites. Et c'est sur ce terrain, justement, que l'Esprit de Dieu va travailler au-dedans de nous. Que devons-nous faire de ces limites, de ces faiblesses devant Dieu? Ben, je vous invite simplement ce matin à voir deux moyens, deux choses que l'on peut faire devant nos faiblesses, devant ce qui nous limite. Et puis nous verrons aussi que Dieu va se servir au travers de cela, de ses faiblesses. Nous verrons cinq choses au travers de cela. Donc la première, de ce que nous avons à faire, nous, de notre côté, avec ces faiblesses, avec ces limites que nous avons, bien premièrement, c'est de les reconnaître. De les connaître en nous, mais aussi de les reconnaître au travers peut-être simplement de la confession au Seigneur. Le Proverbe 3 et verset 34 nous donne l'attitude de Dieu qui nous dit « Il se moque des moqueurs ». Il se moque des moqueurs, hein, il s'oppose aux moqueurs et en revanche, il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. La première étape consisterait peut-être à admettre nos faiblesses en reconnaissant qu'elles sont là et qu'elles ne disparaîtront certainement pas en les ignorant. Et en se disant, mais non, c'est pas si, c'est pas ça. Nous avons souvent peur d'admettre nos faiblesses à d'autres personnes. Même si on ne les admet pas en parole, il y a longtemps qu'ils les ont vues, hein, ces faiblesses. Si nous recherchons dans la Bible, on découvre qu'il y a tous ces personnages qui sont pour nous des héros de la foi et des exemples dans leur vie et leur relation avec le Seigneur. On y trouve eh bien, des gens qui, eux aussi, avaient leurs faiblesses. On y trouve Abraham, par exemple. Quelle était la faiblesse d'Abraham, même si aujourd'hui c'est quelqu'un d'exemplaire pour chacun d'entre nous dans le domaine de la foi, ben c'est quelqu'un qui avait beaucoup de crainte, beaucoup de peur. Hein, quand vous regardez un petit peu son parcours, un moment il s'en va en Égypte alors que Dieu l'appelait quelque part d'autre. Un moment il a peur de dire que sa femme, et c'est véritablement sa femme, parce qu'il a peur qu'on lui vole, il a peur qu'on le tue, il a des craintes. Il est exemplaire à nous aussi, hein, des craintes, mais ça n'a pas empêché que Dieu en a fait le père de la foi. Avec ses faiblesses, le Seigneur en a fait le père de la foi. Nous avons Moïse. Quelle est la faiblesse de Moïse? Il va le dire lui-même devant le Seigneur. C'est ma parole, je ne sais pas parler, je n'arrive pas à parler. Va devant Pharaon. Mais non, je ne sais pas parler. Il avait cette faiblesse, là, il avait ce complexe, on va dire, de la parole. Certains vont dire qu'il bégayait. Je ne sais pas, pourtant, les actes nous disent qu'il était éloquent en parole, en puissance. Quelle était sa faiblesse pour lui? En tout cas, il en avait une. Mais ça n'a pas empêché de faire de lui bien, le premier et le plus grand des prophètes que l'on trouve de l'Ancien Testament et d'être le porte-parole devant Dieu, devant l'homme le plus puissant du monde à cette époque, c'est-à-dire Pharaon. On a, au travers du Nouveau Testament, on a Pierre. Lui aussi, il a des faiblesses. Une grande faiblesse, lui, il est présomptueux. Présomptueux plus que les autres. Mais ça ne va pas empêcher le Seigneur de dire, eh bien, tu es Pierre. Et c'est sur toi que je vais fonder l'Église. C'est à partir de toi, c'est à partir de ta confession de foi, c'est à partir de ce que tu es. Et Pierre va devenir un élément important de la vie de l'Église. Ensuite, on a Paul. Paul, nous l'avons lu, cet homme qui va se plaire dans la faiblesse, alors qu'autrefois, dans ses faiblesses, alors qu'autrefois, sa faiblesse, c'était quoi? C'était l'orgueil. L'orgueil religieux. Et puis on s'aperçoit que Dieu va travailler dans leur vie et faire de ses faiblesses, de ses limites, eh bien des points forts avec lesquels il va pouvoir se servir. Mais ce sont tous des hommes qui ont été appelés à un certain moment de leur relation avec le Seigneur à reconnaître ses faiblesses, ses limites, à les avouer, à les confesser au Seigneur. Et Dieu a dit, bien à partir de là, on va pouvoir maintenant faire quelque chose. Dieu se sert des choses brisées. À chaque fois dans la parole, Dieu se sert toujours des choses brisées, du sol brisé pour produire une récolte. Avant que le blé pousse, il va falloir casser, briser la terre pour qu'on puisse l'ensemencer. Il se sert des nuages qui ont été fragmentés pour donner la pluie. Il se sert des grains cassés pour donner du pain. Et il se sert aussi du pain rompu pour que nous puissions le manger et qu'il puisse produire en nous tout ce dont nous avons besoin. Et c'est Pierre qui, en pleurant amèrement et qui revient à une puissance beaucoup plus importante que celle qu'il avait auparavant. Dieu se sert des choses brisées. Et c'est là que nous intervenons et c'est là que Dieu nous attend dans le fait de reconnaître nos faiblesses, de reconnaître nos limites et de savoir les avouer, les confesser au Seigneur. et de se connaître aussi, bien sûr. Le Seigneur n'attend pas que nous devenions forts, meilleurs pour nous utiliser. Non, il a choisi de nous utiliser avec nos faiblesses. Et si nous voulons voir l'Esprit de Dieu agir dans nos vies, il nous faut reconnaître tout d'abord ses faiblesses, parce que tant que j'essaie de les cacher pour paraître fort, c'est là que Dieu me résiste, parce qu'il résiste. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, première chose, sachons reconnaître devant Dieu, devant le Seigneur et peut-être aussi devant les autres, là nous avons des faiblesses et des limites. Et la deuxième chose, eh bien, c'est comme l'a fait l'apôtre Paul, finir par remercier Dieu de nos faiblesses. Ah oui, Seigneur, je te remercie d'avoir des faiblesses finalement, puisque toi, tu veux m'amener au-delà de ces faiblesses et tu veux me faire vivre des choses à partir de ce marchepied de faiblesse. Remercions Dieu de nos faiblesses. C'est déjà assez difficile d'admettre que nous avons des faiblesses. Maintenant, si je dois remercier Dieu, oh là là, c'est difficile, là, hein, ça devient compliqué. Mais pourtant, 2 Corinthiens 12, 10 nous dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages. C'est encore Paul, hein, qui dit cela. Je me plais dans les outrages, je me plais dans les privations, je me plais dans les persécutions, je me plais dans les angoisses. Pour Christ, en effet, c'est quand je suis faible que je suis fort. Il se rend compte, il dit, mais Seigneur, mais c'est dommage que je ne suis pas plus faible que cela encore, puisque l'évangile avance d'autant plus de façon impressionnante à chaque fois que je suis faible. Paul a appris à se plaire d'être faible. Il était un homme, je dirais, qui avait toutes les raisons d'être fier et arrogant, et c'est ce qu'il était auparavant. Mais quand il est devenu faible ou se rend compte de ses faiblesses, eh bien c'est là que le Seigneur va pouvoir l'amener plus loin, beaucoup plus loin. C'était un homme qui, au travers des révélations qu'il a eues, hein, il a eu de belles révélations, celle qui a fondé l'Église, enfin en tout cas qui sert de support doctrinal à nos Églises aujourd'hui, il y avait véritablement de quoi être se glorifier, hein, d'être orgueilleux. Mais pour ne pas qu'il se glorifie, justement, il nous parle, l'apôtre Paul, d'une écharde qui lui a été donnée dans la chair, par laquelle eh bien, il pouvait justement afficher sa puissance. Au travers de cette écharpe, Dieu va pouvoir afficher sa puissance dans la vie de Paul. Et Paul confesse que cette écharpe, eh bien, lui a été donnée pour une raison particulière, pour ne pas s'enorgueillir de ces révélations qu'il avait reçues. Et il nous est dit qu'il a prié plusieurs fois pour que cette écharpe s'en aille et parte. Et le Seigneur lui répondra à quelques reprises, « Ma grâce te suffit parce que justement ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et là, on se dit, waouh, ben c'est dommage que je ne suis pas plus faible que cela si le Seigneur a véritablement le désir de se glorifier dans ma vie au travers de mes faiblesses. C'est dommage que j'en ai pas plus. Et c'est là qu'on tombe dans l'orgueil. Bon, ça, c'est un détail. C'est ça, champion du monde de l'humilité. Alors, Paul a commencé à remercier Dieu pour sa faiblesse. Et c'est là. Et c'est justement à partir de ce moment-là que Dieu va pouvoir l'utiliser et se glorifier davantage dans la vie et dans l'œuvre missionnaire que Paul va pouvoir accomplir. Il s'est rendu compte que ce n'était qu'à travers de ses faiblesses qu'il était fort. Tant qu'il se sentait fort, tant qu'il se sentait capable, il réagissait comme un orgueilleux, comme un religieux orgueilleux, jusqu'à ce que le Seigneur le brise sur ce chemin de Damas et qu'il commence à reconnaître ses faiblesses. Et là, Dieu lui dit, mais je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir. Souffrir à cause, justement, de ses manques. Souffrir à cause, eh bien, de ce que Dieu veut se glorifier au travers de cela. Le malin se sert de nos faiblesses pour nous rabaisser, mais le Seigneur se sert de nos faiblesses pour nous propulser, bien au contraire. Donc, nous devons apprendre, premièrement, à les reconnaître, et ensuite, ben, Seigneur, merci, parce que j'ai des faiblesses et que tu veux te glorifier au travers de ces faiblesses. Voilà les deux choses que nous pouvons faire devant le Seigneur. Alors, nous allons voir maintenant 5 avantages de nos faiblesses. Si jusqu'à présent, nous les avons vus comme des entraves, comme des limites, comme des choses qui nous empêchaient d'être mieux, de vivre des exploits, en tout cas, tels que la Bible nous les décrit, eh bien, le Seigneur voit les choses différemment et nous allons voir donc 5 avantages de nos faiblesses. La première, eh bien, elle nous garde de l'orgueil. Imaginons que si tout nous réussissait, hein, si nous étions sans limite, si nous étions parfaits, si chaque fois que l'on faisait quelque chose, chaque fois que je prie, Dieu me répond, je deviendrais forcément un orgueilleux. Donc la première des choses, c'est que ces faiblesses, eh bien, elles vont nous conserver de l'orgueil. À cause de la révélation qu'il a reçue, Paul a été incroyablement béni. Il était un homme d'une grande intelligence spirituelle. Même bien avant cette révélation de Damas, hein, qui va venir, j'irai apporter de la vérité dans ce qu'il vivait, dans ce qui était sa fondation religieuse. C'était un homme extrêmement intelligent. Et il a écrit les deux tiers du Nouveau Testament. Il avait vraiment de quoi être fier, hein, ensuite. Hein. Et on se dit que c'était vraiment quelqu'un de très intelligent. Mais cette faiblesse, la faiblesse de cette écharge l'a gardée dans l'humilité. Et c'est cette humilité-là qui va lui donner de vivre des choses encore plus importantes. Jacob, par exemple, a boité dans sa vie. Mais cette faiblesse lui rappelait qu'il avait lutté avec Dieu et qu'il avait été vainqueur avec Dieu. À chaque fois que quelqu'un, peut-être, devait se moquer du fait qu'il boitait comme ça, lui, il savait ce que ça voulait dire. Oui, mais moi, j'ai lutté avec Dieu et j'ai été vainqueur. J'ai été vainqueur avec Dieu. Et peut-être ça pouvait devenir quelque chose d'orgueilleux au-dedans de lui, mais ça devait certainement dans son esprit lui laisser une marque de fidélité, mais aussi de brisement dans ce qu'il avait vécu avec le Seigneur. Ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, ce sont des croyants qui marchent, je dirais, en boitant dans le sens où ils ont lutté aussi avec Dieu et qu'ils ont été vainqueurs aussi, mais que ce combat a laissé une marque en eux, hein, une marque qui est la marque de Dieu au final. Hein, ça se voyait d'une façon physique dans la démarche de Jacob, mais je crois qu'un chrétien aujourd'hui, eh bien, ça se voit dans son esprit, dans son état d'esprit, parce qu'un jour il a lutté avec Dieu, il s'est débattu devant Dieu et il a été peut-être vainqueur dans le sens où le Seigneur avait déjà projeté sa victoire, mais ça a laissé une marque dans son esprit qui fait qu'aujourd'hui, il reconnaît ses faiblesses, qu'il a été brisé, et c'est au travers de cela que le Seigneur va pouvoir le propulser et d'aller plus loin. Le psaume 51, verset 17 nous dit « Ce qui plaît à l'Éternel, c'est un esprit brisé. » Et c'est au travers de cela, hein, que le Seigneur va pouvoir commencer à se glorifier dans notre vie. Et même si Jacob avait lutté avec Dieu dans cette expérience qu'il avait vécue, eh bien je crois que dans son esprit, ça avait laissé quelque chose. Parce que c'est à partir justement de ce moment-là, de Peniel, hein, il y a deux moments importants dans la vie de Jacob, c'est Bethel, où il reçoit des choses, où il va vivre, où il va vivre ces choses, où il se dit « Waouh, le Seigneur me bénit ». Et puis Peniel, le moment où il est véritablement brisé, et là va commencer la bénédiction de Dieu. Eh bien, c'est ce que nous avons besoin de vivre, nous aussi. Et nos faiblesses sont là pour nous garder dans cette humilité de se dire ben, « Peut-être que nous sommes plus que vainqueurs, peut-être que Dieu nous voit beau, peut-être que nous serons sauvés, oui, mais j'ai au-dedans de moi une marque qui fait que eh bien, je reconnais que je ne suis pas grand-chose, je suis faible. » La marque de Dieu, c'est son esprit dans nos cœurs. Dieu se plaît dans un esprit brisé, alors que les orgueilleux porteront, eux, vous savez quoi ? La marque de la bête. Alors que les croyants aujourd'hui portent la marque du Seigneur, mais la marque d'un esprit brisé. Parce qu'on a compris et on sait que eh bien, ce que nous sommes véritablement et réellement, et notre quotidien fait que nous apercevons véritablement de ce que nous sommes. Mais que Dieu est quand même fidèle malgré cela. Et que Dieu a dit, eh bien, malgré tes imperfections, malgré tes faiblesses, malgré tes limites, eh bien, j'ai prévu de me glorifier dans ces choses-là. La qualité que Dieu apprécie la plus, c'est bien celle de son esprit en nous. Ce n'est pas de ce qu'on est capable de faire. Il ne nous a pas choisis selon nos capacités. On peut se dire, tiens, Dieu a choisi cet homme-là parce qu'il est capable de ceci, il est capable de cela. Non, ce qui plaît à Dieu dans cet homme, c'est pas ce qu'il est. C'est l'esprit qu'il a mis en lui. Et c'est ça que nous devons rechercher, pas nos qualités. Il fait grâce aux humbles. Et on sait tous que l'humilité, on passe tous à côté si on n'a pas l'esprit de Dieu. Donc, reconnaissons un avantage de reconnaître nos faiblesses et d'être faibles. C'est qu'elles vont nous conserver de l'orgueil. Un deuxième avantage, c'est que nos faiblesses, eh bien, au final, vont attirer la puissance de Dieu. Puisque tant que je me sens fort, tant que je me sens capable, ben, je n'ai pas besoin du Seigneur déjà, tout d'abord. Hein. Je vais moyennement lui demander de m'aider, de me bénir, puisque de toute façon, je suis capable. Mais c'est quand je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire ? Moi, je dois faire un truc, là. J'ai été désigné pour faire quelque chose, mais je suis vraiment incapable. Je ne sais pas faire. Et c'est là que le Seigneur va pouvoir eh bien, nous attirer par sa puissance. Je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. L'expérience que Paul a vécue, elle est là. Et si nous voulons vraiment voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans nos vies, Attendons justement de voir ce qu'il va faire à travers nos faiblesses confessées, pas nos qualités, pas nos exploits, pas ce que nous sommes capables de faire. La puissance de Dieu ne peut se libérer que dans la faiblesse des croyants, uniquement dans la faiblesse des croyants, pas les capacités. Dieu ne veut pas glorifier l'homme, il veut se glorifier lui et il ne donnera pas sa gloire à un autre. Plus grande est la faiblesse, plus grande est la puissance de Dieu dans nos vies. Et Dieu prend plaisir à utiliser justement les choses faibles, comme nous l'avons lu. L'homme regarde les choses différemment. Il présente à Dieu ses forces, ses capacités. Hein, quand on, au début, quand on se présente au Seigneur avec ce que l'on est, on vient à lui souvent avec un CV. Hein, voilà ce que je suis, voilà ce que je suis capable de faire, avec une jolie lettre de motivation bien rédigée. Mais Dieu voit les choses autrement. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, dira le Seigneur, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et tant que je me présente comme cela, eh bien, Dieu ne peut rien faire. En revanche, si je reconnais mes faiblesses, et c'est ce que l'on fait lorsque l'on connaît bien le Seigneur, lorsque l'on a fait cette rencontre avec le Seigneur, qu'on a vécu un péniel dans notre vie, eh bien, on ne vient plus au Seigneur avec nos qualités. Hein, on y vient plutôt, ben, je suis comme ça, moi. Et je ne comprends pas pourquoi tu m'as choisi, mais je suis comme ça. Et c'est là que le Seigneur va pouvoir commencer à manifester son esprit au-dedans de nous. Si nous pensons que nous pouvons maîtriser nos problèmes et nos faiblesses nous-mêmes, Dieu dira, ben ok, vas-y, je vais regarder comment tu fais. Et puis au bout d'un moment, il dit, ouais, ça va, j'ai compris. Hein? Notre faiblesse nous assure la grâce de Dieu et son aide également. Donc, si nos faiblesses, nos limites nous gardent de l'orgueil, elles vont également attirer la puissance de Dieu. Parce que quand Dieu va dire, bon, ok, c'est bien, tu as fini ton autosuffisance, eh bien là, on va pouvoir commencer et on va pouvoir travailler ensemble. Eh bien, la puissance de Dieu se déverse dans nos faiblesses et à partir de nos faiblesses. Troisième chose, c'est que nos faiblesses nous aident dans notre service envers les autres. Eh oui, parce que nous avons un service dans l'œuvre de Dieu, nous avons un service... je dirais dans le culte de Dieu, dans l'Église. Mais nous avons surtout un service envers les autres. Il nous est dit ensuite, il nous est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 4, « Afin que, par la consolation que nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » C'est ce que Paul, dans le même chapitre 1, va développer, qu'il ne nous a pas appelés selon nos dons, nos capacités, nos possibilités. Non. Et il va dire là, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu au travers de nos faiblesses, eh bien nous puissions à notre tour consoler ceux qui sont dans l'affliction. Afin que par nos faiblesses dont nous nous sommes rendus compte et on a vécu que Dieu eh bien, nous a amenés à vivre des choses extraordinaires au travers de nos faiblesses, c'est au travers de cela que nous allons pouvoir aider les autres, eux aussi, dans leurs faiblesses. Chaque épreuve que nous traversons n'est pas seulement pour notre bénéfice, mais elle est pour nous donner un ministère efficace pour les autres. Et Dieu se sert de nos faiblesses pour que eh bien, ce que j'ai vécu avec lui et ce qui a été transformé, ce qui a changé et ce qui m'a fait voir la grâce de Dieu puisse aider les autres, ceux qui m'entourent, à eux aussi, dans leurs faiblesses, voir la grâce de Dieu. Voilà le raisonnement de Paul. Et voilà aussi le raisonnement du Seigneur et ce qui doit être le nôtre également. Hébreux 4, 15 nous dit « Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » C'est-à-dire que le Seigneur a connu toute notre condition humaine afin de mieux comprendre notre faiblesse et notre frêle humanité, afin de connaître nos faiblesses. Et il sait de quoi nous sommes capables, parce que lui aussi, dans sa chair, il était limité en certaines choses. Et parce qu'il a connu cela, il est devenu celui qui est aujourd'hui au travers de la résurrection, de la crucifixion et de la résurrection. Et c'est au travers de cela aussi que nous allons bénéficier de l'expérience du Seigneur pour nous aussi, dans nos faiblesses, dont nous nous rendons compte, vivre autre chose avec le Seigneur. Il a connu la condition humaine pour mieux nous comprendre dans notre humanité. Et par conséquent, il peut nous aider dans nos faiblesses. Et c'est pour cela que cette faiblesse dont nous pouvons nous rendre compte dans nos vies, eh bien, on s'aperçoit d'un avantage, c'est qu'elle nous aide dans le service pour les autres. Et puis, la vie chrétienne, qu'est-ce que c'est ? C'est d'être beau devant le Seigneur, d'être au culte, de louer, de bien bénir le Seigneur, de bien chanter ? Non, la vie chrétienne, c'est quoi ? C'est ma relation avec les autres. Et c'est surtout cela, et c'est surtout dans ce domaine-là que Dieu m'attend. C'est surtout là hein, que le Seigneur va voir. C'est Jacques qui dira, la vraie religion, c'est quoi? C'est de s'occuper des veuves et des orphelins. C'est pas de paraître beau, ce que les pharisiens n'avaient pas compris à l'époque. Ils voulaient paraître, ils voulaient être, avoir la connaissance des choses. La vraie religion, dira le Jacques, c'est de s'occuper des veuves et des orphelins, savoir de l'empathie pour les autres, ceux qui sont dans le besoin, dans leur faiblesse, parce que j'ai compris que les faiblesses dans lesquelles ils sont, c'étaient les miennes avant, et que Dieu m'a propulsé au travers de ces faiblesses. Donc, on s'aperçoit vivement eh bien, que nos faiblesses nous aident dans le service des autres. Et Dieu va nous propulser dans notre ministère dès l'instant où nous avons compris et vécu nos faiblesses, parce qu'au travers de cela, nous avons vécu et réalisé d'autres choses. Une quatrième, c'est que nos faiblesses nous donnent de voir les autres autrement. Avant de les aider, il faut d'abord les voir autrement. Le problème avec des gens qui croient qu'ils sont forts, c'est qu'ils croient qu'ils n'ont pas besoin des autres. Hein. Tant que je me suffis à moi-même, j'ai besoin de rien ni de personne. Mais et je finis par mépriser les autres, parce que je n'ai pas besoin d'eux, donc je les méprise. Mais dès l'instant où j'ai compris que moi aussi je suis dans la faiblesse et que j'ai besoin des autres au travers de ce que je ne suis pas, eh bien je vais pouvoir les regarder autrement. Ils ne sont pas différents, ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires à cause de cette pensée. On peut devenir indépendant. À cause de cette pensée de suffisance, je vais devenir indépendant, même vis-à-vis de Dieu, et surtout vis-à-vis des autres. Alors que reconnaître mes faiblesses et puis voir que le Seigneur se glorifie dans mes faiblesses, ça va m'aider à dire, eh bien, les autres aussi ont des faiblesses, mais les autres aussi ont des qualités dont j'ai besoin et que je veux aussi dans ma vie. Mais quand ils se rendent compte qu'ils sont comme les autres, avec des faiblesses, ils commencent à réaliser qu'ils ont besoin d'autres personnes et vont apprendre à respecter les autres. C'est ce que nous avons tous vécu. C'est ce que le Seigneur veut nous donner de vivre. La Bible utilise l'analogie du corps pour que nous prenions conscience que toutes les parties de notre corps jouent un rôle très important, et que nous ne pouvons pas mépriser l'une ou l'autre de ces parties, parce qu'un jour j'en aurai besoin. Même les parties les moins honorables. De même, nous avons besoin les uns des autres. Et ça, pour le réaliser souvent, il nous faut l'Esprit de Dieu. Parce qu'on sait que un des travaux de l'Esprit de Dieu, ce sera aussi de l'unité, l'unité de pensée, l'unité de connaissance, l'unité au travers de l'enseignement, au travers de l'Esprit de Dieu. Et ce n'est qu'au travers de ce que j'aurai vécu avec mes faiblesses que je vais me rendre compte de cela. Et une église devient véritablement au service de Dieu que de l'instant où chacun s'unit pour le service et pour le culte et pour le Seigneur. Et là, on devient efficace parce qu'on se rend compte qu'on a besoin des uns des autres et ensemble, nous travaillons tous à la gloire de Dieu. Et non pas, maintenant je suis converti, je vais tout faire pour Dieu, ok, je marche tout seul avec Dieu dans ma maison, je reste chez moi, je n'ai pas besoin de l'Église. Non, c'est absolument pas cela. J'ai besoin des autres, de ce que sont les autres, des qualités des autres, pour moi aussi me propulser dans ce que le Seigneur a prévu pour moi, dans le ministère qu'il me donne, ou dans le service qu'il me demande. Nous avons besoin les uns des autres. Personne n'a tous les dons. Même dans l'Église, personne n'a tous les dons, et pourtant tous les dons sont utiles, voire même indispensables. La raison pour laquelle nous sommes dans l'Église, c'est parce que nous avons à offrir quelque chose que personne d'autre a dans l'Église. Et c'est pour cela que Dieu nous ajoute à l'Église. Il a ajouté à l'Église ceux qui étaient sauvés et ceux qui apportaient leurs qualités, ce qu'ils étaient, ce qu'ils avaient vécu au travers de leurs faiblesses ou même de leurs dons. Ils apportaient quelque chose à l'édifice de Dieu et l'œuvre de Dieu grandissait à ce moment-là. Et c'est à cela que nous sommes chacun et chacune appelés, de voir nos faiblesses, que nos faiblesses nous donnent eh bien, de voir les autres autrement. Et nous avons besoin d'apprécier, de reconnaître les valeurs des autres. Hein, ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour entre vous. L'amour va commencer par la reconnaissance de l'autre. Et cela, c'est souvent au travers de mes faiblesses que je vais m'en rendre compte. C'est pas quand je suis orgueilleux et autosuffisant. Mais quand j'ai reconnu que j'ai des faiblesses et que par ces faiblesses, Dieu veut se glorifier, alors j'apprends à apprécier les autres, j'apprends à aimer les autres, j'apprends à travailler avec les autres. Et ainsi, l'Esprit de Dieu est là et il fait son œuvre et son travail au travers de la faiblesse que je m'étais reconnu au-dedans de moi. Dernière chose, nos faiblesses glorifient Dieu et deviennent le témoignage de Dieu. Et on a vu l'expérience de Paul lorsqu'il dit, eh bien, je me glorifie de mes faiblesses. Vous vous rendez compte, je me glorifie de mes faiblesses. Quand Dieu prend nos faiblesses et travaille en nous, il révèle sa gloire et sa puissance. Puisque ce n'est pas au travers de nos dons, de nos qualités et de nos capacités qu'il va manifester sa gloire, c'est plutôt au travers de nos faiblesses. Donc, ça veut dire que eh bien, c'est au travers de cela que Dieu va pouvoir travailler au-dedans de nous. C'est au travers de cela. 2 Corinthiens 4, 7 nous dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. » Et non à nous. Si nous avons des qualités que nous avons mises au profit du Seigneur, on a la grande tentation de s'en glorifier de cela. Mais si on se rend compte que nous avons accompli quelque chose pour le Seigneur, si infime soit-elle cette chose, eh bien, c'est parce que Dieu s'est glorifié au travers de cela. Et ce n'est pas parce que j'étais ceci ou j'étais cela, mais c'est parce que Dieu a travaillé dans mon cœur. Et on s'aperçoit que Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Dieu, quand Dieu se sert de nous malgré nos faiblesses, il reçoit toute la gloire. Et c'est là que c'est intéressant. Ça veut dire qu'il ne va pas nous donner gloire, il reçoit toute la gloire. Et je suis convaincu que Dieu se glorifie dans nos faiblesses pour que cela devienne le témoignage de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est dit qu'il n'a pas choisi les choses fortes de ce monde, mais il veut confondre les fortes avec des sages. S'il avait pris les plus intelligents de ce monde pour confondre les plus bêtes, ça aurait été chose facile. Oui, il a choisi le contraire. Il a dit, non, vous allez voir, on va faire les choses différemment, et vous allez voir que ça marche aussi. Parce que dès l'instant où il y aura mon esprit dans ses faiblesses, vous allez voir que ça va être au-delà de vos capacités et de vos forces. J'aime bien Hudson Taylor, qui était un missionnaire en Chine. Vous savez, un jour, il s'est posé une grande question. Il a dit, mais il s'est posé la question, pourquoi moi? Effectivement, il n'était pas grand-chose à l'origine. Et il s'est beaucoup posé cette question. Et un jour, la réponse lui a été faite. Eh bien, Dieu a cherché un homme assez faible. Et il l'a trouvé. Un homme assez faible? Ah ouais, effectivement, ça correspond bien. Et au travers de l'œuvre missionnaire d'Hudson Taylor, on s'est dit, ouais, effectivement... Il a fait quelque chose de merveilleux. Mais ce n'est pas dans les capacités de cet homme-là que la gloire de Dieu s'est manifestée, c'était dans ses faiblesses. Il a trouvé un homme faible, suffisamment faible pour laisser paraître la gloire de Dieu. Et Dieu cherche des hommes, des personnes, des frères, des sœurs assez faibles pour travailler avec eux et en eux. Amen. Et c'est au travers de cela aussi que l'on peut voir... La fidélité de Dieu, hein, comme je vous disais au départ, la fidélité de Dieu dans ce que de notre quotidien qui n'est pas souvent fait, en tout cas le mien, d'exploits ou de choses extraordinaires à raconter, mais plutôt des aveux de faiblesse ou plutôt des reconnaissances de faiblesse, de voir la fidélité de Dieu. Mais de voir aussi que dans cette fidélité de Dieu, Dieu ne me dit pas « Bon, t'es faible, je ne peux rien faire avec ça, débrouille-toi. » Non, bien au contraire, ben c'est à partir de cela que je vais me glorifier. C'est à partir de cela qu'on va faire quelque chose. Et c'est à partir de ta faiblesse qu'on va pouvoir édifier ta vie et que je vais pouvoir me servir de toi pour me glorifier. Amen. Vous savez, quelles sont les faiblesses que nous pouvons reconnaître en nous ce matin? Bon, on ne va pas demander de les énumérer. Hein, on devrait faire une liste qui serait certainement très très longue. Quelles sont les faiblesses que l'on peut reconnaître en chacun d'entre nous ce matin et que bien souvent nous essayons de cacher ou de nier aux autres? Dieu a un but, même dans les choses faibles de notre vie, et surtout dans les choses faibles de notre vie, Dieu a un but. Souvenons-nous toujours que Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Hein. Souvent, j'aime beaucoup cette expression, que si vous aviez de la foi comme un grain de senevé, vous déplaceriez des montagnes. Et nous, on se dit, mais purée, il faut une foi comme une montagne pour déplacer un grain de senevé. Moi, souvent, je raisonne comme ça, mais le Seigneur n'a pas dit cela, pas du tout, hein. Absolument pas. Et souvent, on a ce raisonnement de se dire, ben, il faudrait que je sois ceci, il faudrait que je fasse comme ça, il faudrait que je sois capable de ceci, il faudrait que je sois capable de cela pour que Dieu se glorifie dans ma vie. Mais non, bien au contraire, bien au contraire. Moi, j'aime voir la pensée de Dieu au travers de ces choses, mais ce n'est pas comme cela que je vais me glorifier. C'est au travers de ce que tu sais et que tu ne peux pas faire. C'est là que je vais me glorifier. J'aime bien cette image également de Saül et David. Vous savez, devant le géant qui se présentait Tout Israël raisonnait et disait, mais oh là là, le géant, il est tellement grand qu'on ne pourra jamais le battre. Jamais, jamais, c'est impossible. Et David, il le voit, il dit, mais il est tellement grand que je ne pourrais jamais le louper, celui-là. C'est la façon de voir du Seigneur. Et c'est comme cela que nous devons apprendre à regarder. Et c'est en tout cas comme ça qu'est notre quotidien, en tout cas le mien. Pas dans les exploits, pas dans les choses que je suis capable de faire, pas dans les choses dans lesquelles je suis bon, mais c'est dans ces faiblesses-là que Dieu veut absolument se glorifier. Et je crois que nous avons besoin d'apprendre à reconnaître nos faiblesses, à vivre avec nos faiblesses et de voir que Dieu fait avec nos faiblesses. Alors on n'est pas les meilleurs du monde, ni à Bruay, ni à Valenciennes, ni à Douai, ni partout, ni à Paris, ni que sais-je. On n'est pas les meilleurs du monde. Dieu nous a choisis parce qu'on était les plus faibles. Et on peut le reconnaître. Et chaque jour, hein, je pense que dans votre quotidien, vous le reconnaissez aussi. Mais que Dieu va se glorifier avec ses plus faibles. Que l'Église qui un jour paraîtra et qui est le plus bel édifice du monde, la plus belle construction du monde, je ne parle pas en pierre, mais en cœur ajouté à l'œuvre de Dieu, eh bien c'est cette Église qui sera un jour glorifiée et mise au jour lorsque le Seigneur reviendra. Et c'est avec des gens qui étaient faibles qu'il a fait cela. Et c'est avec des gens qui ont témoigné de leur faiblesse et de leur incapacité que le Seigneur va glorifier son nom. Alors on fait partie de ces gens-là, enfin en tout cas moi je sais que j'en fais partie. Hein. Et je sais qu'au travers de cela on voit les choses différemment et s'en dit... Et on se dit, ben, je suis peut-être mauvais, mais je suis un bon mauvais finalement, puisque le Seigneur va faire à partir de ce que je suis et de ce que je sais. Mais sachons reconnaître nos faiblesses et sachons dire merci Seigneur pour mes faiblesses. C'est dommage que j'en ai pas d'autres. Hein. Comme ça, tu pourrais encore plus m'utiliser. Mais cessons de nous dévaloriser, nous dire je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Je suis un enfant de Dieu qui a été choisi par ses faiblesses et par lesquelles Dieu va se glorifier. Amen. Amen. Merci Éternel. Merci pour ta parole, merci pour ton esprit. Merci de nous donner souvent une autre façon de voir les choses, ton esprit, ton discernement, ta vision. Seigneur, nous avons besoin d'apprendre à voir avec tes yeux. Nous avons besoin d'apprendre à regarder avec tes yeux. Oh Seigneur, si tu avais choisi des choses fortes du monde, la chose aurait été facile, mais tu te glorifies au travers des faibles, en confondant les fortes. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, et ce matin nous pouvons reconnaître... connais déjà nos faiblesses, mais nous pouvons les reconnaître et te dire, Seigneur, on vient à toi tel que l'on est. Non pas avec nos qualités, non pas avec nos capacités, parce que c'est pas d'après cela que tu nous as choisis. Mais c'est à partir de nos faiblesses dont tu veux te glorifier et montrer à ce monde bien que tu es la vérité, le chemin et la vie. Seigneur, merci encore. Apprends-nous à chaque jour à reconnaître ce que nous sommes. Non pas avoir l'esprit du monde, cet esprit orgueilleux, cet esprit de suffisance, cet esprit de recherche de gloire, mais d'avoir cet esprit brisé au-dedans de nous parce qu'on sait ce qu'on est, mais on sait aussi ce que tu veux faire avec ce que l'on est. Merci Père éternel. Et apprends-nous aussi à te glorifier chaque jour, malgré que nous sommes faibles, à revenir à toi. Et si nous venons à toi, Seigneur, chaque jour, c'est parce que nous avons reconnu que tu es les paroles de vie. Non pas les paroles qui condamnent, non pas les paroles qui jugent, non pas les paroles qui rabaissent, mais celles qui nous élèvent malgré nos faiblesses et malgré le trou dans lequel nous sommes. Seigneur, sois béni encore pour toutes ces bonnes choses que tu veux faire dans nos vies, Seigneur, et au travers de nous. Seigneur, merci de te glorifier. Merci, merci Père, de nous utiliser afin de confondre les choses fortes de ce monde. Nous ne voulons pas nous opposer à eux, Seigneur, mais nous voulons qu'ils reconnaissent tout simplement ta gloire. Seigneur, merci pour toutes ces choses et sois pleinement béni par nos faiblesses. Amen.
Merci beaucoup, mon cher frère, d'avoir partagé ce que Dieu a mis sur ton cœur. Et puis, voilà, je suis tellement d'accord. Quand je dis je suis tellement d'accord, je suis d'accord dans ma vie, quoi. Je comprends tellement de cette réalité-là. Alors soyez bénis, frères et sœurs, et que les uns et les autres soient vraiment enrichis par tout ce qu'on a entendu ce matin. Et que Dieu soit glorifié. À lui revient toute la gloire. Alors encore une fois, merci d'être laissé utiliser par le Seigneur. Et oui, comme chacun d'entre nous. Voilà, soyez bénis, frères et sœurs, rendez-vous mardi. J'ai oublié de dire que finalement, Donc, les réunions de la semaine, on a convenu entre nous qu'on ne le ferait plus le mercredi, mais qu'on revient donc au mardi comme avant. Donc, rendez-vous mardi, 19h30, pour de nouveau l'étude biblique, méditation biblique, avec T.L. Osborne. Et puis, on va réfléchir ensemble sur tout ce qu'on entendra donc, dans cette vidéo qui est en ligne. Que Dieu vous bénisse. Amen.